ce show dédié pour la bonne opération et le réfroidissement à la gazon complète et rapide de Charlize Ariella Menana bat Emmanuel Laura Chaya, petite fille de 1 an qui va subir une opération pour les oreilles, dans sa chaîne, que tout se passe pour le mieux. On continue comme on a commencé hier. Donc c'était un remake, refaire un peu le cours germanien avec plus de détails. Cours que je fais une trentaine d'années. Version 5782-2021. Voilà. Alors on a vu déjà une partie hier, deuxième partie. Après que le texte nous raconte que Yaakov partage son campement en deux, Yaakov se met à prier. Et lui dit, « Katonti mikola chassadim, je ne mérite pas, je suis petit par rapport à toutes les bontés que tu m'as fait. Car je suis passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je reviens avec deux campements. Hatsilenina miyad achim miyad esav, sauve-moi de la main de mon frère, la main de Esav, qui est réanoché autour, car je le crains. Penyavo vikane em labanim, de peur qu'il vienne et me frappe la mère sur les enfants. C'est un peu poétique ça, qu'il vienne me frapper la mère sur les enfants. Qu'il vienne me tuer, moi et ma famille. Malbanim, c'est quoi la mère des enfants? Alors on le dit tous les Rosh Chodesh, dans les Tehillim, dans le Hallel. Em habanim smecha alléluia. La mère des enfants est heureuse, alléluia. Rashi sur place nous dit, la mère c'est la Shrina, la présence divine, qui ramène ses enfants en terre d'Israël. Elle est à Yerushalayim, à Sion, et elle ramène, elle est heureuse que ses enfants reviennent à Sion. Dans le cas de ce qu'on avait dit, qu'on parle maintenant de la fin des temps, du retour de Yaakov en terre d'Israël. Donc ça correspond au retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël actuelle du XXe siècle. Il a peur, Yaakov, que vienne Esav, Adolf Hitler, le tuer, M. Albanim, qui vienne ici à Jérusalem, tuer M. Albanim, la Shrina avec ses enfants. Pas tuer la Shrina, mais que tout ce programme extraordinaire du retour des Juifs en terre d'Israël avec Jérusalem, etc., pour amener Mashiach, que tout ça soit complètement annulé. C'est ça, M. Albanim. J'ai peur qu'ils viennent et qu'ils frappent M. Albanim. Et de façon extrêmement curieuse, les gens croient que la première défaite allemande de la guerre, c'était Stalingrad, février 1943. C'est faux. La première défaite allemande de la guerre a lieu aux portes de Jérusalem. C'était le 1er 2 novembre 1942. L'Afrika Korps, le corps africain de l'armée nazie commandé par le général, très bon général, Rommel, arrive, ils ont débarqué en Tunisie, après ils ont conquis la Libye, l'Égypte, et on sait que dans quelques jours, ils arrivent à Jérusalem. Ma mère, qui est née en 36 à Jérusalem, se souvient encore comment on remplaçait les sacs de sable, et tout le monde paniquait. Les kabbalistes ont fait, Hamid Afta, il a pris un piper, il a fait le tour d'Israël comme ça, avec des coqs, comme ça, des caparottes. Ils ont fait plein de trucs extraordinaires, d'accord, pour tout le monde était en grande panique. Et il y a eu une bataille entre les Anglais et les Allemands. Les Allemands étaient beaucoup plus forts. Il y a eu un problème, Minas Shamayim extraordinaire. Il y a un problème de ravitaillement d'essence, il y a un problème de coordination. Les tanks, les panzers allemands ont été immobilisés, ils ne pouvaient rien faire, il n'y avait pas d'essence. Les Anglais ont pu attaquer, c'était la première défaite d'une armée qui était censée être invincible, d'accord. Ils n'ont jamais fait de perte, de combat jusqu'alors. C'était aux portes de Jérusalem. Et quelqu'un m'a dit, oui, tout proche, qu'est-ce qu'il y a à l'Allemagne, tout proche à l'Allemagne, la tombe de Rabbi Yaakov, Abu Hatzera, d'accord. Peut-être qu'il y a un rapport entre les deux. En tout cas, on voit que la prière de Yaakov Avinu s'est réalisée, qu'ils ne sont pas arrivés à Jérusalem, ce qui est carrément miraculeux, d'accord. En passant, c'est marqué « J'ai traversé ce Jourdain ». Alors, un petit vort sympa, je ne sais pas quelle valeur ça a. Hein. Yarden, le Jourdain, d'accord. Ça, c'est Yarad Nun, sur les lettres. Je suis descendu, je pense à mon avis, que durant cette galoute, on est descendu, quand on était en Égypte, on est descendu jusqu'au 49e portail de Tum'a, d'impureté. Si on rentrait dans le 50e, c'était mort, irréversible. Alors, Dieu nous a sorti rapidement d'Égypte, avant qu'on tombe dans le 50e. On n'avait pas encore la Torah. Là qu'on a eu la Torah, on est descendu même jusqu'au 50e dans la galoute. Qu'est-ce qu'on n'a pas, dans quel touma, dans quelle horreur on n'a pas été, d'accord, un truc terrible. Et bien au Hachem, il dit, avec mon bâton, j'ai reçu un coup de bâton, on m'a mis dehors de mon pays, j'ai dû rentrer dans le 50e portail d'impureté, et bien au Hachem, maintenant je reviens en terre d'Israël avec les deux campements. Il finit de prier et fait une chose extrêmement bizarre. Va yalen sham. Il va dormir. Va yalen sham ba laïlaou. Cette nuit, il allait dormir. Quand même bizarre. Et ça vient te tuer maintenant, c'est terrible. Tu vas dormir. Et il a pris de ce qu'il avait proche de sa main un cadeau pour son frère Esav. Et la Torah nous dit maintenant, c'est toutes sortes d'animaux, 200 chèvres, 20 béliers, 200 moutons, etc. En tout, 580 bêtes.
Il était dormi ou il a pris un cadeau?
Alors je te dis, il était allé dormir.
Il a pris un cadeau.
Et il semblerait que, et c'est pas moi qui s'est réveillé, dans le sommeil, il semblerait, endormi comme ça, Il a envoyé les animaux. C'est très très bizarre. Il y a d'autres choses à faire que d'envoyer des animaux. Combien d'animaux? 580. C'est marqué plus loin. Va t'avoir Haminchal Panav. Le cadeau est passé devant lui. Rashi, Midrash Agada, donne un Midrash. Afrou Charou Bekas était en colère. Chatarich les causes et qui devait donner tout ça. Je ne comprends pas. D'abord, d'après le Midrash, tu as des centaines de milliers de têtes de bovins. D'accord? Tu as plein. Ensuite, on parle maintenant de sauver ta peau. Ta peau, celle de ta famille, tes enfants. T'envoies 580 bestioles. Mais il va te régaler au nez, Esav. C'est une bêtise. Il a payé 400 mercenaires. Combien on paye un mercenaire? Au moins 10 moutons. Au moins 10 moutons. Donc il te faut déjà, pour 400, il te faut déjà 4000 moutons. Tu me donnes 580, mais c'est une blague. Il y a deux choses bizarres. Un, que Yaakov envoie ça. Et deux, Esav reçoit. Et quand il voit Jacob, il est tout amoureux, il vient l'embrasser, du genre, ça l'a complètement apaisé. 580 bestioles, ça l'a apaisé. Mais c'est une histoire de fou. Les 400 hommes sont là, et tous pour tuer Jacob. Non, 580 moutons, j'ai reçu, allez, je suis content, allez, quelques chameaux par-ci, par-là. Il va embrasser Jacob. C'est même marqué, d'après un avis, qu'il l'embrassait de tout son cœur. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Réponse terrible. C'est quoi qu'il est allé dormir? On a un même épisode qui ressemble à cela, qui est aussi juste avant que le peuple d'Israël revienne en terre d'Israël, quand pour la construction du deuxième temple. On est dans l'exil de 70 ans en Babylonie, et a lieu, juste avant qu'on monte en terre d'Israël, a lieu l'épisode de Pourim. Et là aussi, le peuple d'Israël, comme avant la Shoah, le peuple d'Israël a quitté la Torah avec une assimilation terrible, comme il n'y a jamais eu. Aujourd'hui, il y a aussi. Mais beaucoup qui font tchouva, donc ça remonte. Mais avant la Shoah, c'était on descendait, c'était terrible. Il y a jamais eu, je crois qu'il n'y a jamais eu une dépression aussi grande au peuple juif qu'avant la Shoah, au niveau spirituel. Il y en a eu une autre aussi, quand? À l'époque de Pourim. Haman vient parler au roi Achashverosh, lui dit, vas-y, zigouille-les. C'est marqué dans le crédit que c'est un très grand astrologue, il voyait dans le ciel que, ça y est, on peut maintenant aller tuer le peuple juif. C'est le descendant, Haman descendant de Agag. Agag, le roi de Amalek, petit-fils de Esav, d'accord? Ceux qui ont la grande haine du peuple juif, Amalek. Achashverosh, il dit, j'ai peur de leur dieu. Il n'est pas bête, Achashverosh. Il lui dit, le texte de la Megillah, Yeshno Amechad, il va voir, Haman va voir le roi Achashverosh, il dit, il y a un peuple, Yeshno Amechad, dans ton royaume, etc. Yeshno, les sages d'Israël ont dit, li Yashnu, ils dorment. Bnei Israël dorment des mitzvot. Si nous on dort, Dieu il dort aussi. Tu peux aller attaquer, il n'y aura rien, tout ira très bien. Pour finir, ils ont fait le tchouva. 3 jours de tchouva énorme. Et puis, tout à coup, c'est écrit, « Balaïla houn adela shantamelech. » Cette nuit, le sommeil du roi était agité. Le sens simple, le roi Achashverosh. Le sens profond, Dieu, le roi. C'est marqué, quand on a Megillah, quand on parle, c'est marqué le mot, le hamelech, c'est le roi, c'est le roi du monde, Dieu. Dieu s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont fait le tchouva. Et tac, Haman, on le pend. Regardez comme c'est beau. Yaakov va dormir. Pourquoi? On parle de l'époque de la Shoah, avant la Shoah, où les Israël sont endormis, assimilation terrible. Des centaines de Shoah se ferment, plus rien, tout le monde voit ou devenir sioniste athée ou socialiste. Il va dormir. Et quand c'était, Balaïla Hahou, c'est marqué comment dans le texte? Vayelen Sham Balaïla Hahou, il fallait dormir. Cette nuit, ça fait un peu de gmara, quand c'est marqué Hahou, celle-là, comme je vous dis, il est allé dormir cette nuit là. Pourquoi là? Cette nuit. Pourquoi là? Pour dire celle-là et pas une autre. Il y a une autre fois où c'est marqué Balaïla Hahou, quand? Dans la Megillat Esther. Balaïla Hahou, cette nuit là, Nadedash Antamelech, le roi s'est réveillé. Il y a deux nuits. Et chaque nuit, il dit celle-là et pas l'autre. Une fois, il s'est réveillé et pas celle-là. Une fois, il ne s'est pas réveillé et pas l'autre, ou c'est oui réveillé. On parle de ces deux nuits. Et là, hélas, on parle de la Shoah, où cette nuit-là, là, il ne s'est pas réveillé. À Pourim, il s'est oui réveillé. Il ne s'est pas réveillé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Du dedans du sommeil, c'est-à-dire qu'on est en situation down, de loin de Dieu, en plein dans le sommeil, il commence à envoyer les cadeaux à Esav. Qu'est-ce que c'est que ces cadeaux? On sait très bien que les troupeaux de Jacob Avinu, c'est le peuple d'Israël. Il envoie 580 bêtes. Pourquoi 580? Le chiffre le plus grand qu'on a en hébreu, c'est Revava. Il n'y a pas plus grand. En tant qu'un nom de chiffre, d'accord? Un nom de chiffre. En hébreu, en français, c'est à 1000. 10 000, c'est une composition. En hébreu, on a un chiffre qui s'appelle Revava, ça signifie 10 000. On peut dire que chacune des bêtes correspond à 10 000. Tu fais la somme des 580 fois 10 000, ça nous fait 5 800 000. L'Institut pour la Shoah américain, qui m'a-t-on dit, c'est le plus précis, le plus fiable, il dit qu'il y a 5 800 000 juifs qui sont morts par Hitler durant la guerre. Exactement, c'est ça les troupeaux qu'il a envoyés. C'est pour ça que Yaakov dit, ça lui fait mal. Il est en colère de voir envoyer tout ça. On pose la question, quoi tout ça, quoi tout ça? Quoi tout ça? 5 millions, le tiers du peuple juif qui est parti là-bas. Et ça reçoit, le côté du mal, il a reçu ça, il est tout content. 580 gematria, valeur numérique, combien? Saïr. Qu'est-ce qu'on envoie à Yom Kippour pour amadouer le côté du mal? Un saïr l'Azazel, un bouc émissaire. C'est exactement la même valeur numérique. Qu'on envoie dans quel pays? Saïr, le pays de Esav. Après la bataille entre Yaakov et l'ange, qui correspond vraiment à la Shoah où on a failli passer, et il gagne. Mais l'ange, néanmoins, le touche à la hanche, guide à nacher. Et dès lors, Benissra ne mange plus le guide à nacher. Guide à nacher, valeur numérique, Adolf Hitler. La marque d'Adolf Hitler dans notre corps, qu'on sort boiteux, c'est marqué, il sort boiteux de cette nuit-là. Et il arrive, qu'est-ce qu'on fait après? Ah, après, il rencontre Esav. D'accord? Esav vient, court vers lui, Vaishakeo, il est embrassé. Il y a des points dans le Sefer Torah, des points sur les chaque lettre du mot Vaishakeo. On sait que quand c'est marqué un point, c'est pas tout à fait comme c'est écrit. Rashi sur place, il dit que c'est une marloquette, une divergence d'opinion dans le Sifri. Il y en a qui disent qu'il est embrassé, comme ça. Rabbi Shimon bar Yochai dit, il y a une halakha, une réalité physique. Esav sonne à Yaakov, Esav a la haine de Yaakov. Mais à ce moment-là, toute sa miséricorde s'est réveillée et il a embrassé de tout son cœur, vraiment. Un autre avis qui a dit non, il a fait semblant. En fait, il le haïssait encore, mais il a joué la comédie comme s'il aimait beaucoup. C'est pas clair. C'est quoi cette rencontre entre Yaakov Avinu et Esav après la Shoah? Ben c'est qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif? L'ONU. L'ONU qui décide maintenant, allez, ils ont trop souffert les juifs, on leur donne la terre d'Israël, l'État d'Israël. Ok. C'est vraiment par miséricorde, par pitié de nous, marloquette. Il y en a qui disent que oui, effectivement, l'Occident ne nous aime pas, c'est clair. Mais là, ils ont eu tellement pitié après ce qui s'est passé, on a vu dans les camps, ils ont donné tout leur cœur. Il a embrassé Esav, embrasse Yaakov. C'est complètement fou. C'est arrivé. D'autres disent non, c'est un piège sournois. Et les deux sont vrais. C'est qu'à qui ils ont donné la terre d'Israël? À des juifs anti-religieux, athées, qui ont dit dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux, il n'y aura plus de Torah. Ce que vous n'avez pas réussi à faire, l'égoïme, pendant 2000 ans, de faire que le peuple juif quitte la Torah, nous, on va réussir. En 20 ans. Ils n'ont pas réussi, Baruch HaShem. Mais c'est un miracle extraordinaire, la tchouva, etc. Ils n'arrivent pas. Maintenant, ils ont mis maintenant la gauche, l'accord, qui essaie encore de réaliser ce plan de Ben-Gurion et sa clique, d'accord, de faire que le monde religieux n'existe pas, mais ils vont tomber dans le panneau, Baruch HaShem. C'est ça, l'embrasser. Après, très beau chidouche, à mon humble avis, Yaakov Avinu arrive en Israël. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Et Yaakov est arrivé Shalem, entier, Ir Shrem, à la ville de Shrem. Shalem, qu'est-ce qu'ils ont dit les sages d'Israël sur le Shalem? Shalem Begoufo, entier dans son corps. Shalem Bebamonos, entier dans son argent. Shalem Be Torato, dans toute sa Torah. Ça veut dire que bien qu'il a été blessé dans la bataille avec l'ange et qu'il boitait, et que en quittant la terre d'Israël, Elipaz, le petit-fils de Esav, lui a piqué tout son argent, et qu'il est passé 20 ans chez Lavan, il aurait pu oublier toute sa Torah, il revient en terre d'Israël, il n'a rien oublié de sa Torah, tout l'argent qu'on lui a piqué est beaucoup plus que cela, et il est plus boiteux. Les résultats de cette guerre contre l'ange, sa blessure s'est résorbée. Nous, dans le cadre de ce que nous parlons maintenant du retour du peuple juif en terre d'Israël, on revient en terre d'Israël. La Torah, on l'a. On a failli en 2000 ans. Combien de fois on aurait pu. Qu'est-ce que les goyim n'ont pas fait pour qu'on oublie la Torah, à peu près comme font même la gauche ici en Israël, d'empêcher les juifs d'étudier la Torah, d'accord, en Russie, dans tous les pays d'exil où on était. On a tout. Shalem, on est entier. Je me demande, non, Baruch Hashem, il y a de l'argent comme il faut. Aujourd'hui, l'économie israélienne est une des meilleures économies au monde. Et Shalem et Gouffo, on est le même chiffre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Baruch Hashem. Ça correspond. Et là, la suite du verset est très très bizarre. Beretz Canaan, donc il est arrivé entier à la ville de Shrem, dans le pays de Canaan, Borom Padan Aram, en revenant de Padan Aram, Vayichan et Pneahir, et il a campé en face de la ville. Il a campé en face de la ville. Ok, il a campé en face de Shrem, il a mis ses tentes là-bas. Et là, il y a un Rashi qui est extrêmement bizarre. Rashi, c'est très très rare qu'il cite d'autres rabbins. Et là, il cite un des rabbins les plus grands du 7e siècle, Rav Achai Gaon. S'il le cite, il semblerait qu'il doit dire une chose super importante, un dévoilement d'un secret grand, beau. Alors, qu'est-ce que c'est écrit comme ça? Erev Shabbat Haya. Sur les mots Veichan Pnaari, il a campé en face de la ville, c'était la veille de Shabbat, Shilto de Rav Achai Gaon, dans les questions de Rav, les réponses qu'a données aux questions Rav Achai Gaon. Pour la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire de me dire qu'il a campé en face de Shrem, c'était la veille de Shabbat. Et alors, tu as cité Rav Achai Gaon, pourquoi tu écris ça? Et pourquoi Rashi, tu cites Rav Achai Gaon, la veille de Shabbat, il a campé en face de Shrem, merci bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu un café aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Et je le coupe kiff, enfin, ça ne tient pas la route. Dans le cadre de ce que nous disons maintenant qu'on parle du retour de Yaakov en terre d'Israël, c'est Erev Shabbat, c'est la veille de Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est le grand Shabbat éternel, 7e millénaire, la Géoula, le Mashiach, d'accord? Fini, il n'y a plus de mal, Shabbat, tout est metoukan, Shabbat, tout est réparé, tout sera fini, tout sera bien, on est la veille, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, c'est la veille de la Géoula, ça correspond tout à fait. Ok, c'est quand qu'il est venu s'installer en face de Shrem? C'est quand? Alors, Erev Shabbat, ok, mais c'est un peu vague, Erev Shabbat, on veut une date, on sait que Shabbat, c'est l'an 6000, commence le 7e millénaire. Mais c'est quand que commence Erev Shabbat? Il faut savoir que ce que j'ai dit maintenant, Yaakov Shalem, Yaakov venu entier, entier dans son argent, son dessatora, entier dans son corps, c'est la dracha que dit Rashi, et c'est une dracha, c'est un sens allégorique. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, dit, c'est faux, d'après le sens simple, c'est pas du tout le sens de ce qui est écrit. Ça, c'est une dracha, il est venu à Shrem, Shalem, entier, mais c'est une dracha, c'est un sens allégorique, c'est pas le vrai sens. Le vrai sens, Vayavo, Yaakov, Shalem. Yaakov est venu à Shalem. Shalem, c'est Jérusalem, Yerushalayim. Auparavant, on avait Makitzelek, Melech, Shalem. Makitzelek, le roi de Shalem. Shalem, c'est Yerushalayim. Yaakov n'est pas allé à Shrem. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Shrem, Naplouse, d'accord? Il est venu à Jérusalem. Ir Shrem, qui est la ville de Shrem, Shrem ben Hamor. Shrem, le fils de Hamor. Qui habite la ville de Shalem? Shrem ben Hamor, occupé par la population autochtone. Shrem ben Hamor. Ok, ah, on revient en Jérusalem, mais pas dans Jérusalem. On revient en face, nous dit le texte. Yaakov, il a campé en face de Jérusalem. C'est où? Jérusalem, la vraie Jérusalem, c'est l'endroit du temple. C'est Saint-Jérusalem. Tout le reste, ça compte pour beurre. D'accord? Ce qui compte, c'est l'endroit du temple. Il a campé en face. Quand est-ce qu'on arrive? On a campé en face de Jérusalem. Rashi nous le dit au nom de Rav Achai Gaon. Erev Shabbat. Shabbat, c'est l'an 6000. Faut Erev, c'est la veille de Shabbat. Faut donc soustraire. Avant l'an 6000, combien? Erev. Erev. Prends un verbe numérique du mot Erev. Aïn, ça vaut 70. Rej, ça vaut 200. Bet, ça vaut 2. 272. Un peu fort en maths, il faut faire 6000 fois moins 272. Et quelques mois. Et quelques mois. Parce qu'on ne compte pas les mois. Elle ne te rend pas des mois. D'accord? Ce n'est pas forcément des années pile. Ça peut être quelques mois. Ça nous donne quelle année? Alors, 6000 moins 272, ça nous fait 5728. Si tu fais moins quelques mois, ça fait 5727. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, en 5727? La guerre des six jours. De façon miraculeuse, on gagne cette guerre extraordinaire, des miracles. Et on conquit Jérusalem jusqu'à le mur, pas plus. En face de Jérusalem. La date est marquée.
אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד עד המדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל הערבי.
C'est pas beau? Là, ça vaut la peine de citer Rav Chai Gaon. Regarde, je te donne la date. Extraordinaire, extraordinaire. Après, un passage concernant les Français. Il y a le viol de Dina. Shimon et Lévi sont furieux et vont tuer les 24 000 autochtones de Shrem. Yaakov leur dit, vous êtes complètement fous. Yaakov et Shimon, verset 30 du chapitre 34. Et Yaakov dit à Shimon et à Lévi, « Achartem oti, vous m'avez rendu dégoûtant, la vishéni, de me rendre puant, mais Yoshev Aref, parmi les habitants de la terre, Baknani ou Baprizi, parmi le Cananéen et le Pharisien, et moi je suis en petit nombre, et ils vont maintenant se réunir contre moi, et ils vont me tuer, moi et ma famille, une petite famille, on est moi 12 enfants, tout ça, plein de Cananéens, plein de prisi, d'accord, t'as tué quelques-uns, ils vont tous venir maintenant se réunir contre nous et nous égouiller, nous a mis en danger. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette guerre qu'il y a eu. Mais en tout cas, Ariel Sharon, très souvent, quand on lui disait, mais vas-y, envoie le napalm sur Gaza, terminé, il dit, moi, j'ai pas le problème. Il envoie des missiles sans cesse, on peut se défendre aussi. Le problème, c'est que les Juifs de l'étranger, si nous, maintenant, on touche ici un cheveu des Palestiniens, on met en danger les Juifs de l'étranger. Où? En Amérique? Bof. En France? En Angleterre? Bof. En France? Oui! T'as 1,5 million de Juifs en France, entourés d'Arabes beaucoup plus agressifs que les Marocains, que les Égyptiens, que la majorité des Arabes au monde. Ils sont plus agressifs en France que dans le reste du monde. Si on touche les Palestiniens ici, on met en danger les Juifs de France. C'est ce que dit Yaakov à ses deux fils. Par Shal Vaishar, il y a une haftara, celle de Ovadia. À la fin de l'haftara, c'est marqué « Veknanim at Tsorfat ». Les Cananéens sont allés jusqu'à Tsorfat. Tsorfat, c'est la France. Le Ibn Ezra, il y a 1000 ans, il écrit « Franz ». Quand j'étais à l'école, j'ai appris l'histoire européenne. On avait l'Empire romain. Et il y a des peuplades indo-européennes qui ont conquis l'Empire romain. Alors, je me toujours posé la question, c'est quoi indo-européenne? Ça vient de l'Inde et de l'Europe. Entre les deux, ils sont quelque part entre les deux. C'est quand même pas mal, indo-européenne, d'accord? Ils n'ont jamais osé dire que ça venait de l'endroit que tout le monde connaît, c'est Israël. Ça ne se sait pas, c'est pas beau de dire ça. Ovadia nous le dit. Les Cananéens sont allés jusqu'en France. Ces peuplades étaient composées de Francs qui ont conquis la France, de Vandales qui ont conquis, si je me souviens bien, ils ont conquis l'Espagne, de Visigoths qui ont conquis l'Italie, de Goths qui ont conquis l'Allemagne, et Ostrogoths qui ont conquis l'Autriche. Si je me souviens bien, mes souvenirs de ma jeunesse. Donc les Francs ont conquis la Gaule. Et c'est venu le pays de la France. Plus personne dit Gaule, d'accord? Comment s'appelle la capitale de la Gaule? Lutèce. Ah, faut que tu ne connais pas tes classiques, mon cher ami. Lutèce, un petit village à côté aussi qui n'a pas été conquis. Et tout d'un coup, on l'appelle Paris, avec un S à la fin. Comment ça se fait? C'est ce qu'il dit ici, Yaakov, où je suis entouré de Cananéens et de Prisi, de Pharisiens. Paris! Ils ont appelé Lutèce Paris, au nom de leur peuple. Tout à fait logique. Bon, c'est marqué qu'il y a eu la crainte de Dieu. Et rien ne s'est passé contre le peuple d'Israël. Dieu se dévoile à Yaakov et lui dit, vas-y, monte, rentre dans Jérusalem. Il va voir sa famille, il leur dit, ok, Dieu m'a parlé maintenant d'aller monter, faire le temple, comme j'ai promis, faire un hôtel à l'endroit du temple, comme je l'ai promis. Alors préparez-vous. Et on voit que la famille de Jacob lui donne ses idoles. Bizarre, il y avait des idoles. Eloa Nechar, il y avait des idoles. La famille de Jacob, ça ne tient pas la route. Et les amimes, les piercings dans les oreilles, du nez et des oreilles. Et Jacob enterre cela. Qu'est-ce que c'est? La tchouva. C'est moi qui aussi, Archifou Simnotechem. Changez vos habits. Il allait en Chistroué, commence à aller en orthodoxe, d'accord. Des dizaines, des millions dans le monde qui font tchouva. Des millions qui font tchouva. C'est écrit ici. Et Yaakov monte sur le mont et dit à Dieu se dévoile, lui dit Melachim, Mechatzer et Yeseu, maintenant sortiront de toi des rois, époque messianique. Le roi, c'est le Mashiach. Tout à la fin, un peu plus loin, on voit que. Dès ce moment-là, on ne l'appelle plus Jacob, on l'appelle, dans le texte, il l'appelait Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est en exil, il l'appelait Jacob. Lorsqu'il sort de l'exil, il l'appelait Israël. Et on voit que dans tout le texte, on l'appelle Israël. Puis tout au coup, un moment, on reprend de nouveau Jacob. Au milieu d'un verset, il y a un arrêt, un blanc. Et depuis, c'est marqué, Vaishma Israël, Israël a entendu. Les enfants de Jacob ont été 12. Comment tu reviens à Jacob? Je crois que l'histoire dont nous parlons, qui parle de la fin des temps, elle s'arrête ici. Dans ce verset-là, Israël. Après, on reprend l'histoire normale de Jacob il y a 3500 ans. Et juste à ce moment-là, dans le verset 21, « Vaïssa Israël, Israël est allé, vaïet aholo me'al al migdal eder. » Il a mis sa tente un peu après migdal eder. C'est quoi ce migdal eder? On a Targum Yonatan, la traduction de la Torah en araméen par Rabbi Yonatan ben Uziel, qui expliquait les choses profondes, pas le sens simple. Et il dit comme ça, qu'il a mis sa tente à un endroit qui s'appelle Mugdala de Eder, c'est Migdal Eder, Atra, l'endroit des Mitaman de là-bas, Atid Idgale Malka Meshicha, se dévoilera le roi Mashiach, Besof Yomaya, à la fin des temps. Donc ça correspond, je pense que nous disons que tout ce texte-là parle du retour en Israël jusqu'à Mashiach très bientôt. La date du Mashiach, j'ai beaucoup cherché, elle n'est pas marquée ici, elle est marquée nulle part. On espère que c'est pour les semaines à venir, il y a des bruits qui courent de ce genre-là. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Va Amen.